Mosaïque.
La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.
Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous captez. C'est notre moment de suivre l'émission Mosaïque de la radio-télévision Isanganiro, émettant depuis Bujumbura, la capitale économique. Mosaïque d'aujourd'hui s'articule sur la fraternité et la cohésion sociale. Exploiter les valeurs culturelles partagées entre le Rwanda et le Burundi. Des colloques récents organisés à Rusizi et à Cibitoke, deux régions du Burundi et le Rwanda transfrontalier, ont rassemblé des participants de deux pays, le Rwanda et le Burundi, dans le but d'identifier les valeurs sociales et culturelles qui les unissent. Des résultats de ces rencontres ont révélé une forte convergence sur le fait que les deux peuples partagent de nombreuses valeurs, renforçant ainsi leur fraternité historique. Les participants ayant exprimé leur conviction que ces valeurs peuvent servir de levier pour maintenir la cohésion sociale et favoriser une cohabitation pacifique malgré les défis politiques qui persistent. Ce débat vise à aider le public à identifier et réfléchir sur ce que les deux peuples ont en commun dans leurs valeurs culturelles et sociales, sensibiliser les auditeurs burundais à l'importance d'exploiter ces valeurs communes pour renforcer la fraternité, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les populations rwandaises et burundaises. La question centrale du débat sera comment exploiter conjointement ces valeurs partagées pour promouvoir la paix et la cohabitation harmonieuse entre le Rwanda et le Burundi. Pour répondre à cette préoccupation, nous avons deux invités autour de ce plateau, à savoir Pierre Claver Nahimana, politicien burundais. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque.
Bonjour à Isanganiro, merci pour nous avoir invités et nous saluons tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à travers la télévision Isanganiro.
Nous sommes également avec Eric Ndaïsaba, professeur associé, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure NS. Bonjour à vous aussi et bienvenue dans Mosaïque.
Bonjour Évariste et merci beaucoup pour l'invitation.
Séraphine Akizimana et Alexandre Ngarouenayo sont à la prise du son et des images. Médard Niongourou à la réalisation, à l'animation. Vous retrouvez Évariste Ndikubanyanga. Rebonjour et bienvenue.
Mosaïque.
La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.
Ouvrons cette émission par cette première question. Quelles sont, selon vous, professeur Rick, les principales valeurs sociales et culturelles que partagent le Rwandais et le Burundais et quel est l'état des lieux aujourd'hui?
Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, pour comprendre ces valeurs sociales, culturelles qui sont communes aux Burundais et aux Rwandais, on peut en fait essayer de pousser un peu loin dans l'histoire ancienne, l'histoire sociale. En fait, quand on regarde l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs, il y a tellement d'éléments communs, notamment l'organisation sociale, la famille, le clan, par exemple. Je cite le clan parce que bien avant la monarchie, on avait les clans. Et ça, ce n'est pas qu'au Burundi, ce n'est pas qu'au Rwanda, c'est dans toute la région qu'on appelle la région des Grands Lacs. Quand vous allez au Buganda, au Mhole, au Bushi, Buha, etc., etc., on a le clan. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a eu même les dynasties dans beaucoup de ces royaumes. Et quand on regarde le clan, nous avons des clans qui sont communs, Imigango, comme on dit au Burundi, qui sont communs au Burundi et au Rwanda. Et plus que même au-delà de ces deux royaumes. Je donne l'exemple du Rwanda et du Burundi parce que c'est l'objet de ce débat. Et 14 sur 18 clans du Rwanda se retrouvent au Burundi.
Ah bon?
14 sur 18, c'est déjà beaucoup. Et là, ça montre que nous avons des lieux qui sont communs, qui sont très forts. En fait, il y a eu des migrations à l'intérieur de cet espace qu'on appelle les régions des Grands Lacs. Mm-hmm. Les gens ont beaucoup bougé. Ils bougeaient parce que, en cas de famine, de disette, mm-hmm. où, ça commençait toujours par sécheresse. Et comme on est dans une région, en fait, dominante, pastorale, et donc les gens devaient, en fait, se bouger pour chercher les lieux de pâturage pendant la période de sécheresse. Et on fouillait également les famines. Et les gens ont beaucoup bougé, en fait. Mm-hmm. Et les gens, bon, c'est étonnant, les gens bougeaient beaucoup plus du nord aussi. Et donc, je ne vais pas citer tous ces clans, mais bon, il faut en parler. Prenons par exemple les clans de Bahima. Mm-hmm. Tous les clans de Bahima, au Burundi, se retrouvent au Rwanda. Et plus qu'au Ngole également. Et donc, pour dire quoi? À partir de l'organisation familiale et clanique, c'est la base. Tout va se structurer autour de ça, autour de la famille, autour du clan. De tout ce qu'on a comme croyances, la religion, le Kubandwa par exemple, le culte de Kubandwa, mm-hmm. qui est un culte très ancien. Il y a des recherches qui ont été menées, qui montrent qu'en fait, les Burundais avaient ce culte pendant la période, ce que nous appelons en histoire, la période préhistorique. Bien avant qu'on parle de la monarchie, de l'organisation politique, etc. Au Burundi, on parle de Kubandwa, au Rwanda, etc. On avait au Burundi Kiranga, au Rwanda Gyangombe. Donc, ces valeurs dont on parle, sociales et culturelles, se structurent, émergent à partir de ce socle qui est la famille, qui est le clan. Tout part à partir de la famille, à partir du clan. Donc, peut-être qu'on pourra y arriver pour citer ces valeurs, mais c'était pour vous montrer que bien avant, dès le début, on est à même peuple en fait. Et quand vous regardez ce qu'on a dans la région des Grands Lacs, c'est unique par rapport à l'ensemble de l'Afrique. Vous allez par exemple en Afrique de l'Ouest, vous parlez le Kirundi, personne ne va vous comprendre. Mm-hmm. Et quelqu'un du Togo, quand il parle, vous ne comprendrez rien, rien, absolument rien. Mais vous allez en Ouganda, Ngole, Kenya, etc. Ce sont des langues bantoues, mais ils sont au-delà de langues bantoues. Ce sont des langues vraiment très proches. Mm-hmm. Pour vous montrer que cet espace que nous appelons région des Grands Lacs, etc., au-delà du Burundi et du Rwanda, nous avons vraiment des liens qui sont communs. Donc, nous sommes des peuples très proches.
C'est pas pourquoi le colon belge a appelé cette région Rwanda-Urundi.
Oui, oui, il y a ça, mais au-delà du Rwanda et du Burundi. Regardez, prenons par exemple le Bushi, qui est à côté. Quand on parle la langue, le Mashi, c'est apparenté avec le Kirundi, c'est apparenté au Rwanda.
Au Kinyarwanda.
Donc, c'est pour vous montrer qu'au-delà du Rwanda et du Burundi, on a des peuples. Certes, distinct, parce qu'on a les Ngole, les Baganda, les Bashi, les Waha, les Barundi, les Banyagwanda, mais ce sont des peuples qui ont, je vais dire, un socle, un dénominateur commun. Donc, si on pouvait pousser un peu plus loin au niveau de la recherche, on comprendrait que nous sommes partis, si on peut le dire ainsi, dans même dénominateur. Dans même peuple, en fait.
Dans même dénominateur, dans même peuple. Nous sommes autour de ce plateau avec Pierre Claver Nahimana, politicien natif de Nyamurenza, tout proche de la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Quelles sont, selon vous, vous êtes à côté du Rwanda, les valeurs sociales et culturelles que partagent le Burundi et le Rwandais?
Mais d'abord, je fais mien les observations que donne le sociologue, surtout à savoir que les populations burundaises, les populations rwandaises, si vous y regardez de près, elles sont organisées sur les mêmes modèles sociaux. Donc, ça veut dire qu'ils ont un passé plus ou moins commun, un passé historique commun sur la façon de s'organiser, sur la façon de penser. Donc, ces peuples ont une histoire qui permet de dire que ces peuples sont très proches. Ceci est très clair. Vous dites que je vis à la frontière avec le Rwanda, oui, mais depuis ma tendre enfance, à l'âge de 10 ans, je commençais déjà à savoir ce qui se passe autour de moi. Donc là, on était en relation avec les populations rwandaises. On le voyait. Et comme déjà on parle la même langue, plus ou moins la même langue, on se comprend très bien. Donc, il était facile de communiquer avec les populations rwandaises. Donc, déjà, que l'on puisse communiquer sans problème, c'est déjà un élément fondamental qui nous fait dire qu'on est très proche. Deuxièmement, ce que j'ai vu là-bas en grandissant, c'est que les communications physiques entre les Rwandais et les Burundais étaient nombreuses. Donc il y avait des Rwandais qui venaient chez nous et des Burundais qui allaient au Rwanda. Les Rwandais logeaient chez nous, les Burundais logeaient au Rwanda. Et ça a continué comme ça. Donc pour vous dire que c'est des populations qui sont très proches, malgré que ce soit des pays assez différents. Maintenant, si on regarde au niveau des valeurs, vous savez, regardez la population burundaise. Et si je ne parlais pas des pouvoirs, je suis en train de parler des peuples. Les populations burundaises, vous savez, ils ont ce que l'on appelle Ubuntu. Ça, on le sait très bien. Ils ont ce qu'on appelle la dignité. Ils ont ce qu'on appelle l'entraide, le respect d'autrui. Ça, ils ont. Mm-hmm. Les populations burundaises ont cela. Et j'affirme que de l'autre côté de la frontière, de la Kanyaru, d'après ce que j'ai vu, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ce sont des valeurs qui permettent effectivement à ce que ces peuples-là puissent être très proches et très amicaux, très parentaux. Alors ici, je ne parle pas des mariages mixtes que l'on connaît très bien. Mm-hmm. Ici, je ne parle pas des relations amicales qui se sont établies entre les Rwandais et les Burundais. Il y en a beaucoup, même dans les moments de crise. Ça, c'est des choses qu'on a vues en grandissant. Et même pendant ces moments où les gens se lancent des invectives, on le voit, ça continue. Donc, pour vous dire qu'à ce niveau-là, il y a à creuser pour que, malgré les difficultés, ces relations puissent être très bien sauvegardées pour l'intérêt des deux peuples.
Malgré les différences, des ateliers sont organisés. Ces ateliers ont vu la participation de presque toutes les couches sociales de la population, soit de Cibitoke et de Rusizi de l'autre côté du Rwanda. Suivant ce vox pop des habitants de Cibitoke qui ont très récemment participé dans un atelier organisé par Bénévolentia Grand Lac sur les valeurs que les Burundais ont en commun avec les Rwandais voisins et comment peuvent-elles remédier à la situation caractérisée par mauvaises relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda.
Kugambira ico basangiye no rurimi hagati y'umunyarwanda n'umurundi ko baraganira nta muntu bakeneye kwaza gusigura ariko baraganira.
Les Burundais et les Rwandais ont presque la même langue. Au Rwanda, il y a les médiateurs culinaires appelés Abunzi en Kinyarwanda, de même qu'au Burundi, qu'on appelle Abahuzi. Tout tranche des conflits qui sont signalés au niveau culinaire. Les Burundais et les Rwandais partagent beaucoup de cultures et coutumes. C'est la même pratique pendant les dots et mariages. La procédure est la même. Je dirais que même certaines danses traditionnelles sont les mêmes et ont les mêmes nominations. Les coutumes sont les mêmes entre les Burundais et les Rwandais et aider jadis les deux peuples à vivre en harmonie. Les deux peuples se rendaient visite et se donnaient de belles filles. Avant la fermeture des frontières, l'eau s'offrait également de vaches et tout se passait facilement car la langue est la même. Moi, je trouvais qu'ils font que cette unité entre les Burundais et les Rwandais puisse se rétablir.
Vous voyez, nous vivons à la frontière. Nous demandons à nos autorités de s'asseoir ensemble et trouver solution aux différends. qui les oppose pour rétablir la coopération et que chacun respecte les frontières de l'autre.
Mes chers invités, vous venez d'entendre comment la population de Cibitoke interprète ces relations, ces valeurs culturelles entre eux et leurs voisins du Rwanda. Ils ont beaucoup touché sur cette amitié qui les caractérisait avant la fermeture des frontières. Quels sont les commentaires par rapport à ces interprétations de la population frontalière avec le Rwanda?
Professeur Eric. Quand on écoute leurs interventions, ils sont revenus sur un élément fondamental qui est la langue. La langue comme outil de communication, comme outil d'échange. Et quand on partage la même langue, bah on partage tout. Quand on parvient à communiquer, à s'entendre, à se comprendre. Et donc, il y a une autre question aussi fondamentale, c'est la question de frontières. En fait, à un certain moment, on se pose la question, qu'est-ce qu'une frontière physique? Si les gens peuvent communiquer, si les gens peuvent échanger. Nous, en sciences sociales, parfois, nous banalisons la frontière physique pour montrer l'importance de ces échanges, de ces interactions sociales, au-delà des frontières physiques telles que fixées. Et donc, je crois que beaucoup plus en temps normal, je veux dire, quand les frontières ne sont pas fermées, la frontière joue un rôle moins important. Moins important, en fait. Si les gens peuvent traverser, peuvent échanger, faire le marché de l'autre côté, etc., etc., participer dans les fêtes, eh bien, au reste, Rwandais, Burundais, mais il y a un autre lieu, le lieu de voisinage, ces interactions de l'autre côté de la frontière, et qui fait que parfois on peut minimiser même la frontière. Qu'est-ce que la frontière si les gens peuvent traverser et faire des échanges? Comme donc construire le quotidien, le social, au-delà de la frontière. Et donc, c'est ce qu'on venait de dire. Pour eux, ils parlent la même langue, ils échangent, et bien, on est un même peuple. C'est ce que j'ai pu comprendre, en fait.
Ils ont parlé aussi des danses culturelles semblables.
Oui, quand on partage déjà la même langue, quand on partage la même histoire, parce que là, nous avons une histoire plus ou moins commune, une histoire ancienne. En tout cas, c'est encore rare de voir deux peuples qui parlent la même langue. En tout cas, les nuances ne sont pas aussi fortes. Ça veut dire que si, bon, peut-être que le temps viendra, on pourra faire des recherches beaucoup plus approfondies. On trouvera que nous avons quelque chose dans le passé, je veux dire, quelque chose qui nous est beaucoup plus commun, qu'on ne comprend pas peut-être aujourd'hui. Parce que, oui, les recherches qui ont été faites ont des limites. Ils sont basés sur des écrits de la fin du 19e siècle, ça c'est très récent, un peu des enquêtes orales. Mais si on pouvait faire un saut en arrière, 5, 6, 10 siècles avant, on trouvera que nous avons quelque chose vraiment qui nous est commun. Et donc pour ces gens de la frontière, s'ils parlent la même langue, s'ils traversent, s'ils participent dans les mêmes cérémonies familiales, etc., eh bien, c'est un même peuple. Prenons, si vous êtes de telle province ou telle autre province, même à l'intérieur du pays, vous dites, écoute, je viens de Moravia, l'autre vient de Gitega, mais nous sommes Burundais. On peut dire, écoute, on est Burundais, on est Rwandais, on est Mushi ou Moura, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui nous unit. Et qui dit langue, dit la culture, dit toutes ces pratiques sociales, culturelles, etc., etc. Regardez par exemple l'habitation. Notre habitation traditionnelle, c'était forme circulaire. On peut s'étonner de voir que domé ou après domé, on peut revenir sur la même forme. Et d'ailleurs, quand on regarde le style de Gaseke Bouye, ça reprend la même forme qu'on avait il y a... Donc, la culture, c'est quelque chose... Il y en a même qui parlent de génétique culturelle. Donc, vous dire qu'il peut y avoir de discontinuité, mais jamais de rupture. Regardez par exemple ces danses culturelles qu'on voit ici à Bujumbura, les clubs culturels. J'ai fait un article sur les clubs culturels. Des enfants, des jeunes qui sont nés à Bujumbura, qui n'ont pas été beaucoup plus socialisés sur la vie du monde rural et de la vie traditionnelle, mais qui rejouent cette scène, cette vie du monde rural, traditionnel, qu'ils n'ont pas connu. Donc, ça, je comprends ça comme une sorte de transmission des valeurs culturelles, de transmission de la mémoire culturelle. Donc, un peuple peut migrer un peu plus loin, mais gardera des éléments de culture sur plusieurs générations.
Merci beaucoup, professeur Eric. Pierre Claver Nahimana, vous venez d'entendre cette population de Chibitoke qui a la nostalgie de cette culture sociale commune avec le Rwanda. Comment est-ce que vous interprétez cela ?
D'abord, il est très heureux que l'on apprenne que des populations burundaises puissent actuellement, dans l'état actuel des choses, des populations burundaises et rwandaises puissent pouvoir se rencontrer au niveau des frontières pour qu'elles puissent échanger sur leurs problèmes, les problèmes qui leur sont causés par, disons, par les relations froides qui existent actuellement entre le Rwanda et le Burundi. Donc, que ces populations puissent se rencontrer, donc c'est une très bonne chose, parce que l'on pourrait croire qu'avec tout ce qu'on dit, que les frontières sont fermées, il n'y a pas possible que les gens se rencontrent. Si cette dynamique-là pouvait continuer, qu'elle puisse continuer à tous les niveaux, au niveau des dirigeants, au niveau des populations qui sont dans d'autres comtés, ça serait une très bonne chose. Alors maintenant, ce que ces populations disent, j'ai dit tout à l'heure qu'ici on parle, il y a des choses à distinguer, ce sont les peuples et les gouvernants, les régimes. Donc ça, c'est des choses très différentes. Donc ces peuples-là, c'est plutôt ces populations, disent, parlent directement de leurs intérêts propres dans cette affaire. Donc ça veut dire qu'elles, elles vous disent, mais ces gens-là, les Rwandais ou les Burundais, nous parlons la même langue, n'est-ce pas ? Avant les conflits, nous avions des relations socio-économiques très fructueuses pour chacun. Donc, nous nous souhaitons que les bonnes relations qui étaient établies avant, que les dirigeants fassent attention et qu'ils rétablissent ces bonnes relations de part et d'autre pour que nous puissions bénéficier, rebénéficier des bienfaits de ces bonnes relations qui existaient avant. C'est ça le message que ces populations donnent. Pour dire maintenant, écoutez, nous ne sommes pas contents de ce qui se passe. C'est ça qu'elles disent. Nous ne sommes pas du tout contents de ce qui se passe. Nous, nous voulons la paix. Nous voulons que les frontières soient réouvertes. Nous voulons la sécurité sur les frontières. Nous voulons que les frontières soient réouvertes pour que la libre circulation socio-économique puisse être rétablie. C'est ça que ces populations disent. Et ils ont raison. Ils ont raison, c'est clair. Malgré que on peut savoir, être au courant que entre les États, suivant de circonstances telles ou telles, souvent s'établit des froideurs entre les États, entre les dirigeants. C'est ce qui se passe maintenant. On voit la froideur qu'il y a entre l'État burundais, disons le gouvernement burundais et le gouvernement rwandais. Mais ça n'a pas été toujours ainsi. Ça n'a pas toujours été ainsi. Parce qu'on a connu des moments où ça se passait très bien. Mais maintenant, il faut placer le problème dans son ensemble. Lorsque naissent d'autres problèmes comme celui qu'on connaît au Congo, en RDC, qu'il y a un conflit de ce genre, attendez-vous à ce qu'effectivement, on connaisse des problèmes au Burundi, au Rwanda, où les mauvaises relations entre le Rwanda et le Burundi s'établissent. C'est comme ça, malheureusement. Et si nos dirigeants ne font pas attention, ça dégénère toute la situation. Les populations souffrent. Voilà. C'est ce que ces populations disent. Débrouillez-vous, arrangez-vous quelque part pour que les relations soient rétablies. C'est ça le message que ces populations donnent. Et ces populations ont raison. Il faut les soutenir, absolument.
Merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que le débat du jour s'articule sur la fraternité, cohésion sociale et exploiter les valeurs culturelles partagées entre le Rwanda et le Burundi.
Mosaïque.
La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.
Comment ces valeurs historiques peuvent-elles être définies dans le contexte actuel des deux pays? On voit que ces valeurs sont au point mort ou bien elles sont actives. Professeur Eric.
Si on revient sur ces valeurs, comme le disait Pierre Travers, quand il parlait de valeurs d'Ubuntu, humanité, valeurs de dignité, au Burundi, on a par exemple, on a les sites de Mushinganahe. Quand on dit Mushinganahe, Umugabo, au Rwanda, on a Ubufura. Et des valeurs de solidarité, donc de dignité, Umugabo, Mushinganahe, Infura, des valeurs de solidarité et des valeurs de respect de l'autorité. Il y a une culture politique de respect de l'autorité, et c'est ce qui est bien aussi. Alors, il y a un aspect très intéressant quand on parle de valeurs culturelles. Et parfois, on fait allusion en fait à donc, parfois, quand on regarde les crises que nous avons connues au Rwanda et au Burundi, parfois, il y a tendance à minimiser l'importance de ces valeurs. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? En fait, une crise, c'est quoi? Une crise, la crise remet en question, une crise, qu'elle soit politique ou économique, et c'est le basculement de l'ordre existant. Ce n'est pas parce qu'on entre en crise qu'on perd tout ce qu'on a comme valeur. La crise vient en fait comme, et parfois, et quand on regarde très bien, ces crises que nous avons connues au Rwanda et au Burundi, et elles atteignent un niveau, un degré qu'on n'avait pas imaginé. C'est pourquoi au Burundi, parfois, quand on parle de crise, y a une dimension qui dépasse notre quotidien, notre manière de concevoir, de voir les choses. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on entre dans une crise qu'on perd toutes ses valeurs. Non. La crise, c'est un épisode qui vient, on peut le déterminer, pour chambarder ce qu'on a, ce qu'on avait construit. Eh bien, au moment fort même de crise, ces valeurs se sont démarquées. Si on le veut, on peut entrer en détail. Ces valeurs de solidarité entre les gens qui ne partagent même pas leur appartenance ethnique et politique, on les a vus au Rwanda pendant le génocide, au Burundi pendant les moments de crise. C'est ce qui fait qu'après la crise, les gens peuvent se reconstruire, construire le lien social. Nous parvenons à construire le lien social après ce tremblement de terre, si on peut le dire ainsi. Donc c'était ce moment de basculement. Donc après, on parvient quand même à construire le lien social, à essayer de vivre ensemble grâce à ces valeurs. Et donc moi je me dis que avoir ce que les gens viennent de ces populations viennent de dire elles-mêmes, là nous comprenons que malgré les difficultés, il y a encore quelque chose qui est commune, qui lie les deux peuples. Ils continuent à se fréquenter, peut-être discrètement, Il continue peut-être à échanger, je ne sais pas, par téléphone ou par contact physique, etc. On n'a pas entendu des affrontements sur les frontières,
entre populations.
Entre les populations, malgré les difficultés, malgré les mesures qui sont des mesures politiques, des mesures purement politiques. Et donc, il y a cette intelligence sociale de discerner les choses, de distinguer les choses. Dire, ok, il y a une mesure politique, mais il y a aussi nous. Il y a notre quotidien. Dire, en tant que voisin. Et nos voisins, bon, on le voit même dans le quotidien. Le voisin, il est toujours là. Mm-hmm. Voilà. Donc, vous devez faire en sorte que vos relations soient plus ou moins cordiales. Mm-hmm. Voilà,
c'est même votre voix. Même si ce n'est pas à 100%.
Oui, même si ce n'est pas à 100%, vous devez. Mm-hmm. Il y a cette obligation, cette responsabilité partagée. Mm-hmm. Donc, je vous dis que malgré cette mesure qui est purement politique, sécuritaire, donc une mesure d'euro, peut-être qui dépasse la... Il y a des initiatives communautaires, hein, au niveau local, qu'il faut que les gens maintenu la cohésion. Mm-hmm. On n'a pas entendu des affrontements sur les frontières, etc. Et là, ce qui nous peut conforter, c'est cette façon de se fréquenter, d'organiser des rencontres, etc. Et que les gens s'expriment, c'est bien. C'est quelque chose. Parce que parmi les valeurs aussi, c'est que les gens s'expriment. Les gens parlent. Les Burundais, les Rwandais parlent. Ils voudraient avoir un espace pour parler de leurs problèmes. Et donc, moi, je me dis que tout n'est pas perdu. Et même dans le passé, dans les moments les plus cruciaux, hein, les moments de crise aiguë, les gens ont continué, ont essayé de garder ce qui les unissait, plus que les appartenances partisanes.
Mm-hmm. Voilà. Merci beaucoup, professeur Eric. Pierre Claver Nahimana, on voit que dans le contexte actuel, des deux pays, ces valeurs historiques sont mal définies, il n'y a pas d'échange libre. Est-ce que ces valeurs sont toutes encore de l'actualité aujourd'hui? Pourquoi vous, en tant que politicien, quand il y a une crise politique au Burundi, ça touche le Rwanda? Quand il y a une crise au Rwanda, ça touche le Burundi? Cela est dû à quoi?
C'est la complication de ce problème. Vous savez... D'abord, les valeurs humaines, elles sont ancestrales, n'est-ce pas? Mm-hmm. Elles sont dans le cœur des populations. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce ne sont pas des choses qui sont enseignées par un tel ou un tel régime, non. Donc ce sont des valeurs de base. Quand on parle de la solidarité, de l'humanisme, du respect, de la dignité, ce sont des choses qui sont ancré dans les populations depuis longtemps, mm-hmm. n'est-ce pas? C'est dommage que maintenant, effectivement, il n'y a pas une sorte de formalisation par les États, les différents États, que ce soit au Burundi, le Rwanda, le Congo, une formalisation de ces valeurs pour que on puisse les enseigner régulièrement dans les écoles, dès la jeune enfance, pour que les gens grandissent. Mm-hmm. Mais, vous savez, dans l'OTAN, ce qu'on a vu, dans l'OTAN, moi, je suis né à l'époque de la royauté. Mm-hmm. Les gens de cette époque, ils avaient ces valeurs-là. Mm-hmm. Dans les populations, c'était les plus nombreuses. Ceux qui ont étudié à l'école, ils n'étaient pas nombreux. N'étaient pas très nombreux, c'était très peu nombreux. Mm-hmm. Il y avait le roi, il y avait les Baganois, et tout le monde se comportait de la façon la plus digne possible, mm-hmm. qu'on pouvait constater. Mais au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une éclosion des gens qui sont allés à l'école, qui ont appris d'autres valeurs, n'est-ce pas? L'argent s'en est mêlé, les richesses, le pouvoir, je ne sais pas quoi encore. On a vu une autre catégorie de population qui n'avait pas, des fois, quoi faire de ces valeurs. Mmh. Alors, il s'en est mêlé aussi les conflits qui sont nés. Si on prend notre pays, le Rwanda, on peut se demander pourquoi... Avant 72, avant 93, 94, n'est-ce pas, mm-hmm. On ne connaissait pas des crimes aussi profonds comme le génocide de 72 au Burundi, le génocide de 94 au Rwanda. Mm-hmm. On ne connaissait pas ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces valeurs ont été perdues? Donc, c'est la question que vous posez, on peut croire plutôt qu'on a eu des contaminations venant d'ailleurs. Mm-hmm. Absolument. Donc, s'il y a des contaminations au niveau des élites, je parlais de contamination au niveau des valeurs. Mm-hmm. Absolument. Et que ces valeurs, à un certain moment, sont mises à côté ou on les oublie, mm-hmm. Eh bien, les dégâts s'en suivent.
Mais ça envenime la situation.
Les dégâts s'en suivent. Mm-hmm. Et je pense que c'est la vraie explication. Mm-hmm. La catastrophe est tombée. Mm-hmm. Et on a vu les catastrophes parce que ces valeurs ont été, à un certain moment, oubliées, perdues complètement. Alors, les conséquences ont été désastreuses. Alors maintenant, on s'imagine, est-ce que maintenant on peut retourner à ces valeurs pour qu'on reconstruise? Parce que les gens disent les dirigeants, mais c'est d'abord les peuples. Si les peuples ne continuent pas à solidifier ces valeurs, les populations elles-mêmes, parce que les dirigeants, c'est des peuples, des populations. Donc, vous comprenez qu'un dirigeant qui naît d'une population qui peut-être a perdu ses valeurs, le dirigeant va aussi devoir perdre ses valeurs. Donc, le problème est là. Donc, c'est un problème assez complexe quand même. Je pense qu'à l'époque actuelle, il faudrait que les gens soient conscients, les dirigeants soient conscients de ce problème et qu'ils mettent en place des mécanismes pour redonner de la valeur, de l'importance à ces valeurs, si je puis m'exprimer ainsi.
Justement, on va y arriver dans les dernières minutes de cette émission. Faire appel aux valeurs traditionnelles en est une chose, mais ces jours-ci, certaines personnes utilisent essentiellement les réseaux sociaux et certains médias pour exploiter les différences, faire croire à la supériorité des uns sur les autres. Pourquoi ces manipulations maintenant, professeur Rick?
Bon, avant d'arriver à cette question, je voudrais revenir à la question que vous venez de poser à Pierre Claver sur pourquoi ces crises, voilà, une crise au Burundi, au Rwanda, etc.
C'est des crises similaires.
Oui, c'est parce qu'on est des frères, en fait.
Bon, vous savez, certains disent des cousins, je ne sais pas.
Oui, en fait, quand vous êtes frères, écoute. Il y a des moments de joie, vous jouez ensemble. Mmh. Il y a des moments où vous vous tabassez. Donc, mmh. Et donc, ça c'est obligatoire.
Il y a la fraternité, le cousinage.
Oui, oui, oui. Donc, alors, quand on a un peuple, deux peuples qui parlent la même langue, qui ont connu la même histoire ancienne, et qui ont connu l'histoire de la colonisation, etc., etc., même configuration ethnique, etc., et on doit s'attendre à ce que il y a des moments de crise, de conflit. Et le conflit, regardez par exemple le dictateur de la monarchie. Mm-hmm. Il y avait des crises. Il y avait des guerres entre le Burundi et le Rwanda.
Oui. Donc, c'est là où est né Kirundo.
Oui, oui, par exemple, il devait y avoir des guerres. Vous êtes roi du Burundi, il fallait montrer votre force. Il faut montrer que vous êtes capable d'attaquer votre cousin, votre frère du Rwanda. Et il y en a même qui disent que chaque fois qu'il y avait qu'on intronisait un roi du Rwanda, qu'il devait y avoir une guerre. Pareil pour le cas du Burundi. Je crois qu'il y a des études il y a par exemple un chercheur rwandais, Alexis Kagame, qui a montré les similarités, les ressemblances de ces institutions sociales, etc. Et qui a montré qu'on était deux peuples, deux royaumes, mais qu'il y avait des échanges réciproques. Au Burundi, on savait qu'on a un nouveau roi, on a intronisé un nouveau roi au Rwanda. On savait qu'on se prépare à une guerre. Et il y avait même il pouvait y avoir des conventions pour arrêter la guerre. Voilà. Donc, pour montrer que quand on a cette histoire, une histoire ancienne qui est commune, un peuple, moi j'ai déjà dit, un même peuple, et qui peut-être deux frères, chacun a pris son chemin, mais ils continuent à savoir, à s'informer sur ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, quand on a deux peuples qui parlent la même langue, qui descendent peut-être de la même peuple, et qui sont voisins, eh bien, c'est normal qu'il peut y avoir des moments de conflit. Il reste à voir alors comment gérer les conflits. Et est-ce que tous les conflits doivent se générer en violence? Non, pas du tout. C'est tous les conflits, le conflit naturel, on le sait, et entre deux peuples, entre deux individus, le conflit doit y... Voilà, ça c'est... Je ne sais pas, mais c'est naturel. Il reste à voir comment gérer, comment prévenir et comment gérer.
Et aujourd'hui, ça se gère mal quand on jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Il y a des propos injurieux, des caricatures.
Mais pas aussi mal que ça. On a des caricatures, réseaux sociaux, etc. Mais regardez ce qui se passe sur les frontières. Les populations, ce n'est pas parce qu'il y a tel ou tel autre individu mal intentionné et publie, je ne sais pas quoi, un message violent d'Orène sur sa page Facebook que les gens vont suivre. Donc, à cet moment, on peut dire même que nos peuples sont beaucoup plus en avance que les élites. Ah oui! Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un discours politique ou un message mal intentionné sur Facebook ou Télégroupe ou WhatsApp que les gens font ça s'entrer dedans. On a gardé cette cohésion sociale malgré les difficultés. Donc, c'est à partir de ça, de ces bonnes initiatives, de ces exemples, qu'il faut, je crois, qu'il faut partir de là pour construire une paix durable, construire un lieu social durable, faciliter son quotidien, qui est peut-être, qui aujourd'hui n'est pas, qui est handicapé par cette fermeture de frontières, mais qui existe. Voilà, il y a un quotidien à construire. Le quotidien, c'est-à-dire quoi? Je faisais le marché de l'autre côté, j'avais une terre à cultiver, etc., etc. Bah, puisque ça, nous avons entendu même récemment, quand il y a des cas de vol, de vaches, etc., que les autorités, à la base, ça s'impliquent pour régler ce genre de problème. Donc, pour dire quoi, c'est pas si mal que ça. Des problèmes, il y en a, c'est des messages, etc. Mais, sur place, on voit des autorités, à la base, qui peut-être qui continuent à communiquer. Et qui continue à gérer la frontière. Parce que la frontière doit être gérée d'une manière pacifique. Il ne faut pas qu'il y ait des troubles sur la frontière. Parce que s'il y a des troubles sur la frontière, les premiers à subir, ce sont les populations locales. C'est pourquoi ils sont en avance, je crois. Bah, ils sont en avance pour maintenir la paix, maintenir la cohésion sociale, maintenir ce quotidien, malgré les difficultés.
On entend que le professeur Eric est optimiste, que ses propos injurieux, ses caricatures ne peuvent pas affecter les communautés. Est-ce que cet optimisme est de l'autre côté de Pierre Clavernay?
Dans le moment de difficulté, c'est comme ça. Mais comme dit le professeur, il faut savoir gérer ces débordements. Ceci est clair. Nous savons tous que si le problème, on le place dans le contexte actuel, tout cela se passe à cause de la guerre qui existe dans la région, dans l'est du Congo, où l'on peut dire sans se tromper que le Congo, le Rwanda et le Burundi sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Donc, la fameuse région des Grands Lacs. Si on raisonne comme ça, on voit que effectivement, il y a des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux qui rivalisent pour mettre sur les réseaux sociaux des insultes, des clichés dégradants ou qui critiquent les dirigeants de ces trois pays d'une façon ou d'une autre. On le voit sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, tout ça on voit. Est-ce que maintenant, comment la population accueille cela? Parce que là, ces choses-là, c'est le problème des réseaux sociaux. Des fois, vous allez trouver des gens qui sont honnêtes, qui disent des choses peut-être acceptables, mais d'autres qui mettent là-dessus des choses impossibles, inacceptables. Et malheureusement, il est difficile de contrôler ces choses-là. Mm-hmm. Il est difficile de contrôler ces choses-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, il est né des individus, même sans grande connaissance, mais qui peuvent accéder aux réseaux sociaux et qui peuvent nuire absolument. Donc, maintenant, au niveau des populations, ça peut faire mal quand même. Ça peut faire mal pour des gens qui ne sont pas avertis.
Surtout la jeunesse.
Oui, surtout la jeunesse. Ça peut faire mal si on ne prend pas garde. Absolument. Moi, je suis de ceux qui disent que les gouvernements, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu déjà, parce que déjà il y a le feu.
Il y a déjà le feu.
Et les gouvernements doivent essayer de faire quelque chose dans ce mode de communication pour contrer ces malfaiteurs. Il faut qu'ils mettent aussi des canaux de communication qui peuvent contrer ces malfaiteurs qui agissent sur les réseaux sociaux. On les voit, il y a des gens qui disent des choses scandaleuses. Bon, ben, est-ce que cela, on peut les supporter? Non, non. Est-ce que les gouvernements peuvent les supporter? Ça non. Est-ce qu'ils sont en train de travailler pour les gouvernements? Je ne crois pas. Quelqu'un qui va proférer des insultes, s'il est dans ma maison, ça veut dire que c'est moi qui est en train d'insulter les gens. Cette personne-là, je vais la punir. Et ceci est clair.
Donc cet appel, vous le lancez au gouvernement du Burundi et au gouvernement du Rwanda.
Du Rwanda et de la RDC, puisque maintenant, on parle dans un contexte des grands lacs africains, le Rwanda, le Burundi et la RDC. C'est eux qui sont concernés. Ce conflit, d'abord, les concerne.
Ça, c'est de deux.
Et de deux, donc d'abord, combattre ces gens-là. Et de deux, il faut qu'ils mettent en place des mécanismes, ça on l'a dit, des mécanismes, des cadres de rencontres dont on en parlait tout à l'heure. Des cadres de rencontres au niveau des dirigeants, au niveau des fonctionnaires moyens, au niveau des populations, pour que malgré ce qui se passe, en attendant que les pourparlers qui sont autour de ce problème puissent donner des fruits, pour que quand même on essaie de garder le cap, qu'on ne perde pas la tête. Donc ça, là, il y a un rôle très important pour les dirigeants de ces trois pays. Ils ne peuvent pas laisser les choses passer comme ça, en accompagnant tout simplement ces malfaiteurs. Ce n'est pas possible. Il faut que les valeurs dont on parlait tout à l'heure soient sauvegardées même dans les moments actuels. Voilà.
Et on voit que la population, surtout jeune, est toujours manipulable par les politiciens. Et quel est l'appel que vous lancez à la population, surtout à la jeunesse burundaise et rwandaise?
Alors, c'est vrai, ceux qui vont dans la guerre, ceux qui vont dans les groupes armés, dans les rébellions, ceux qui diffusent ces choses-là, c'est toujours la jeunesse. On les utilise. J'allais dire, nous les politiciens, nous les utilisons. Mais moi, je ne les utilise pas pour ces choses-là. Ce n'est pas possible. je ne peux pas m'engager dans les affaires de ce genre. Donc, il faut qu'on dise à ces jeunes qu'il faut qu'ils fassent attention. Et ils doivent constater que finalement, les mauvaises retombées de ce qui est en train d'être fait maintenant, dans ces pays, les mauvaises retombées, c'est surtout sur eux. Immanquablement. C'est eux qui vont souffrir. Donc, il faut qu'en certain moment, même les jeunes commencent à se mettre ensemble, ces trois pays, se mettre ensemble pour dire vous, les gouvernements, écoutez-nous, on a des problèmes à cause de vous. Notre avenir est en danger à cause de vous. Donc, s'il vous plaît, ceci, ceci. Donc, il faut que les jeunes n'écoute plus ces mauvais enseignements que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il faut que quelque part, ils écoutent les enseignements qui donnent, qui mettent en avant ces valeurs dont on est en train de parler, pour que ces jeunes se développent en connaissant ces valeurs. Ça pourrait permettre peut-être que les générations qui vont venir les puissent éviter ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc, quelque part, il y a un travail à faire. un grand travail à faire au niveau de la jeunesse. Mm-hmm. Absolument.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Pierre Claver Nahimana. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Nous sommes avec professeur Eric Ndaïsaba. Quelles initiatives positives proposez-vous qui renforcent les relations entre ces deux communautés? On voit qu'il y a la jeunesse qui est manipulée. Quel est l'appel aussi que vous lancez aux leaders communautaires, surtout les institutions, qui manipuleraient cette population constituée surtout par la jeunesse?
Avant de répondre à cette question, il y a un constat. En fait, nos sociétés sont très fragiles. Mm-hmm. La société au Burundi, au Rwanda, au Congo,
en RDC,
ce sont des sociétés très très fragiles. Oui. Des sociétés marquées par des moments de troubles, mm-hmm. de guerres civiles, de génocides, qui ont laissé une mémoire très fragmentée. Des mémoires violentes. Et à cela s'ajoutent les difficultés de sortie de crise, les difficultés socio-économiques. Et donc, et reconnaître cette fragilité, fragilité structurelle, au niveau social, communautaire, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une autre façon de trouver la solution. Et donc, quand on regarde très bien, au Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo, et nous avons les mêmes problèmes. Des problèmes de pauvreté, il faut le dire. Mm-hmm. Des problèmes de chômage des jeunes. Avant, le chômage se situait dans les villes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes sur nos collines, partout dans nos villages, dans nos quartiers. Mm-hmm. Au Burundi, Rwanda, RDC, qui n'ont pas de travail. Donc, une population jeune et pauvre, manipulable, mm-hmm. plus que ça, qui peut accéder à ces réseaux de communication. Mm-hmm. Et donc là, on doit vraiment faire attention. Comprendre qu'il y a un problème profond, mm-hmm. qu'il ne faut pas leur ajouter d'autres problèmes.
Mm-hmm. Comment donc doit se comporter cette population, surtout jeune?
Oui, cette population, comme le disait Pierre Claver, cette population jeune doit comprendre en fait qu'au-delà du discours politique, il y a un quotidien. Mm-hmm. Il y a la communauté, il y a moi en tant qu'individu. Oui, c'est vrai, c'est difficile parce que nous sommes dans un contexte d'appartenance au groupe, une appartenance forte au groupe. Nous, on s'identifie. En fait, du point de vue de l'anthropologie, de la sociologie, mm-hmm. il y a le moi qui n'existait pas par rapport au nous. Mm-hmm. Nous, en tant que parti politique, mm-hmm. nous, en tant que famille, écras, etc. Donc, là, je pense qu'il y a moyen de déconstruire ça. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord je. Qu'est-ce que je gagne dans cette affaire, moi? Qu'est-ce que ça me rapporte individuellement? Mm-hmm. Un. Deux, au niveau communautaire. Et ça, c'est un défi. Mais de l'autre côté, il y a une expérience, oui, une expérience de la guerre, certes. Il y a aussi une expérience de l'après-guerre, ce qui veut dire que on a connu la guerre, on a connu des crises, nous nous sommes engagés dans des pratiques de violence, mais quelle a été l'expérience? L'expérience, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'engagent de moins en moins. Oui, on aime dire, oui, les jeunes, etc. Mais je pense qu'il y a une leçon tiré de notre passé.
Donc il faut enterrer la hache de guerre.
Moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes politicien mal intentionné, etc., que vous aurez toujours déjà à vous suivre. Mm-hmm. Non, non. Et là, ça réduit en fait, ça permet en fait de revoir nos rapports avec les rapports entre les élites et la population. Je dis qu'on a une société qui est prise en avance par rapport aux élites. Dans beaucoup de choses, si vous voulez. Et donc, il y a quelque chose, une expérience tirée de la guerre, qui veut dire que la paix coûte moins cher que la guerre. Ça veut dire quoi? Essayez la cohésion sociale. On le voit dans les communautés. On le voit sur nos collines. Regardez tout autour des canaux de passé. Parfois, on peut même plus distinguer ce qui était canaux de passé. Parce que j'ai encadré des études sur ça. J'ai vu comment les dynamiques socio-territoriales des canaux déplacés, comment tu trouves des gens qui quittent même les collines pour venir trouver une parcelle, etc., au cas, etc., et vice-versa. Mm-hmm. Donc, pour te montrer qu'il y a une expérience d'après-crise qui fait que les gens sont parfois prudents. Mm-hmm. Écoutent le discours, d'accord, on ne va pas dire non à l'autorité, etc., mais où il y a moyen de contourner et des mesures qui ne sont pas, qui ne nous apportent pas du bien, qui viennent pour fragiliser notre quotidien. Et ça, on le voit. On le voit partout. Et donc, si la question que tu venais de poser, quoi faire? Je pense qu'il faut renforcer l'autorité à la base. Il y a, oui, les autorités au sommet, etc. Il y a le rôle de Nyumbakumi. Oui. Il y a le rôle du chef de colline. Il y a le rôle de l'administrateur. Et ils sont vraiment très écoutés. Et donc, moi, je pense que dans ce genre de rencontres, on a compris qu'il y a cette fois-ci des rencontres au Burundi, au-delà de la frontière, et avec la population, les autorités. Ça, c'est bien. Parce que la parole de l'autorité reste écoutée. Et donc, ce qui est très important, c'est ce lien social, c'est ces rencontres. Et les décisions politiques au sommet viendront et pourront même partir de là. Comprendre son message qui est lancé. Ils ne vont pas nous dire, écoute, ouvrez les frontières. Ils sauront comment nous dire. C'est avec ces rencontres, dire, écoute, nous sommes un même peuple, etc., etc. C'est pour vous dire, comme le disait Pierre Clavet, écoute, allons de l'avant. Si c'est question de frontières, impliquez-nous. Et c'est bien, aujourd'hui, en tout cas, ceux qui sont spécialisés dans ces questions de sécurité, on ne peut pas penser à une mesure durable et stratégique sans impliquer la
population.
La population. C'est elle-même qui est là, qui voit. C'est eux qui donnent les renseignements.
Ils ont dit que chacun respecte les frontières de l'autre.
Oui. Ils savent qu'il y a une frontière. Et voilà. Mais au-delà de la frontière, il y a une vie. Il y a un quotidien. Et que si ces gens sont impliqués, pourraient participer davantage au maintien de la sécurité. Si la frontière, au-delà des frontières. Nous avons dit tout à l'heure, comment ils gèrent, par exemple, des cas de vol de vaches, etc. Ce n'est pas parce qu'on traverse la frontière qu'on dit, écoute, moi, c'est bon, j'ai traversé la frontière. Mais ils ramènent des vaches volées, il faut arriver de l'autre côté. Nous avons vu. En tout cas, il y a des nouvelles à la radio, sur les réseaux sociaux, qui montrent cette implication des autorités administratives et sécuritaires sur les frontières. Moi, je pense que ce sont des exemples à perpétuer pour arriver à une paix durable, à une cohésion sociale, à la fraternité effective comme... Comme le dit le titre de son débat.
Et merci beaucoup. Voilà, c'est par ici que se referme cette émission qui a vu la participation de Pierre Claver Nahimana, politicien. Merci d'avoir participé.
Merci beaucoup pour l'invitation que vous nous avez transmise. Si c'était à refaire, je le ferais aussi.
Merci beaucoup. Nous étions aussi avec Eric Naïsava, professeur associé, enseignant chercheur à l'École normale supérieure NS. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque.
Merci beaucoup Évariste pour l'invitation et pour ce débat, ces échanges effectués. Voilà, à la prochaine occasion, on sera là.
Séraphine Akizimana et Alexandre Ngaruvenayo étaient à la prise du son et des images. Medarni Onguru était à la réalisation, à l'animation. Vous étiez avec Évariste Nziko Banyangha. Bonne suite de nos programmes.
Mosaïque.
La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.